Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Ai-je besoin de dire que vous êtes sociologue ? Vous appréciez d'ailleurs cette étiquette, sociologue ?
Une partie de moi est sociologue, une partie de moi est historien, une partie de moi est philosophe, une partie de moi est d'être un être vivant, un individu. Bah, écoutez, les gens ont besoin beaucoup d'étiquettes. Et moi, ces étiquettes me gênent, mais on me les applique, je les subis.
Moi, je suis très heureux que vous soyez notre Père Noël, outre le fait que vous êtes historien, philosophe, puisque vous passez ce matin de Noël avec nous. Il y a 55 ans, avec Jean Rouch, vous avez fait du cinéma et vous demandiez aux Parisiens s'ils étaient heureux. Ils vous répondaient quoi ?
Mais vous savez, ils étaient très surpris et choqués par cette question. Et les uns disaient, oui, on est très heureux. Et d'autres disaient, ben non, on est très malheureux. Donc, si vous voulez, c'est une question de provocation, mais qui ne demande pas de réponse. Pourquoi ? Parce que le bonheur, comme état continu, ça n'existe pas. Il y a des périodes de bonheur, des périodes privilégiées, où tout est bien pour soi, à la fois du point de vue affectif, harmonieux, de l'environnement. Moi, j'ai connu des belles périodes de bonheur. Et c'est vrai que même souvent, le bonheur doit être payé par du malheur. Quand vous êtes heureux avec une personne que vous adorez et que cette personne soit s'en va, soit meurt, vous êtes malheureux. Autrement dit, le bonheur n'est pas un état auquel on peut tendre constamment. Mais il faut penser qu'il y a des petits moments de bonheur. Moi, quand je vois un beau visage, quand je vois un oiseau qui volette, quand je vois un coucher de soleil, j'ai 1000 moments de bonheur et chacun d'entre nous peut avoir ses petits moments de bonheur. Alors voilà, la vie, moi je dirais, ce n'est pas le bonheur qui m'intéresse dans ce film. L'idée importante, c'est qu'il faut vivre poétiquement. Poétiquement, ça veut dire quoi ? Par opposition à la prose. La prose, si vous voulez, ce qu'on fait par ennui, qui ne vous intéresse pas, par obligation. La poésie, c'est ce qui vous dilate, ce qui vous donne la communion, l'amitié, l'enthousiasme, l'amour. La poésie, vous le trouvez effectivement dans une relation avec quelqu'un, à la rencontre avec des amis, dans un beau match de football, en lisant des poésies merveilleuses. Donc, il y a une qualité poétique de la vie qui est la chose importante et grâce à laquelle on va trouver des beaux moments de bonheur. Et mais en avis, c'est ça qu'il faut se cultiver. C'est-à-dire, il faut échapper à ce qui vous obsède, à ce qui vous ennuie. Bien entendu, parfois, on est pris dans ces contraintes. Mais il faut en sortir le plus possible. Il faut trouver des petits oasis dans ce désert qui est souvent la vie quotidienne.
Les Français, collectivement, en 2015, n'ont pas eu beaucoup de bonheur. Vous êtes d'accord avec cette assertion ?
Et vous savez, c'est heureusement que dans une année morose, une année de tristesse, une année de difficulté, une année d'angoisse, une année d'inquiétude, bien heureusement quand même que certains trouvent le moment de faire des petites fêtes, de s'aimer, de se rencontrer. Enfin, vous savez, là aussi, heureusement, nous sommes des êtres qui résistons au poids de la société. Moi-même, quand j'étais dans la résistance, sous l'occupation, dans une période malheureuse, j'avais des moments de joie et des moments d'exaltation avec mes camarades. Donc, si vous voulez, c'est vrai que, mais du plan humain, l'individu, on peut être heureux dans des moments où la société est malheureuse, mais quand même, on sent en soi ce poids. Et moi, je l'ai senti beaucoup en l'an 2015.
Vous venez de rappeler que vous aviez été dans la résistance, Edgar Morin. Vous n'avez cessé finalement de vous impliquer, de vous engager. Impliquons-nous, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Et peut-être que cela a contribué à votre bonheur, le fait d'être engagé.
C'est vrai qu'à cours de cette époque, qui était à la fois pleine de risques, de dangers et de souffrances dans le pays, j'étais réconcilié avec moi-même. Je sentais que je faisais quelque chose de bien, quelque chose qui dépassait ma personne. Et c'est pour ça que je vous reparle de cette qualité poétique, c'est-à-dire qu'on en est dépassé par une adhésion à quelque chose qui est beau. À l'époque, ce qui était beau, c'était la liberté, c'était l'espoir d'un monde nouveau. On avait ça. Donc, si vous voulez, c'est vrai que pour moi, le fait de continuer à me sentir sans que je le cherche, c'est pas de ma faute. C'est bon, on me dit, ah ben écoute, tu devais à ton âge, tu devrais te rester tranquille. Mais je dis, mais moi, c'est ce que je veux, mais les événements, ils me laissent pas tranquille. C'est ça qui... Toute ma vie, j'ai été poursuivi par ça. Vous savez, il y a eu la crise du communisme, j'ai dû rompre avec le communisme. Le communisme, il y a eu la guerre d'Algérie, j'ai dû m'engager pour la guerre d'Algérie, contre la guerre d'Algérie, pas pour la guerre d'Algérie. J'ai eu chaque fois. Il y a eu mai 68, j'ai dû participer à mai 68. Il y a eu la guerre de Yougoslavie, j'ai dû prendre position. Enfin, ça, et puis il y a la mondialisation. C'est qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de ma faute. Je suis pris dans ces histoires-là.
Et aujourd'hui, et on sait que très récemment encore, vous avez appelé à la paix en Syrie. Vous considérez que la guerre n'est pas une solution, Edgar Morin.
Vous savez, quand on a dit aujourd'hui il faut faire la guerre au Daesh, j'ai dit la meilleure façon de faire la guerre au Daesh, c'est de faire la paix en Syrie. Pourquoi ? Parce que la Syrie est devenue une sorte de brasier dans lequel s'engouffre toute une série de combattants les plus divers qui se combattent les uns les autres à l'intérieur. Par exemple, les Turcs, ils combattent pas tellement Daesh, mais les Kurdes. Les Russes n'interviennent pas seulement contre Daesh, mais pour s'évendre le dictateur Bachar. Les Américains ne veulent pas lâcher Bachar, etc. Donc, si vous voulez, c'est une histoire où les partenaires sont mélangés, sont alliés de leurs ennemis, et c'est dans ce chaos qu'a prospéré ce califat, ce Daesh, qui est une sorte d'attraction. Disons, vous savez, moi j'ai connu la guerre d'Espagne qui était une attraction pour des volontaires internationaux pour la révolution. Là maintenant, c'est une attraction pour des volontaires pour la foi exaltée et fanatique. Donc, si vous voulez, c'est un foyer très dangereux pour toute la planète. Alors, je dis, il faut faire la paix en Syrie. Et d'abord, il faut penser pas tellement d'abord aux méchants Bachar, il faut penser au peuple syrien. Tant que la guerre continue, ce sont des millions de gens qui souffrent. Bien entendu, nous, maintenant que les choses en sont là, le Daesh ne sera pas éliminé totalement. Nous éliminons une source d'attraction et le monde va courir ce nouveau type de péril. Bon, vous me direz, ça a l'air tout à fait nouveau. Mais vous savez, des fanatismes meurtriers, nous en avons connu quand même dans le siècle précédent. Ce n'est pas nouveau, mais c'est aussi très mauvais. Et donc, si vous voulez, c'est ça peut-être aujourd'hui un ennemi principal de l'humanité. Moi, je ne dis pas que nous sommes civilisés parce que nous avons aussi notre propre barbarie. Et je pense que même des pays comme la Russie ou autres, ils ont des aspects très barbares. Mais ils sont moins barbares que le Daesh. Aujourd'hui, il faut que les moins barbares s'unissent contre les plus barbares. Et après, si on a un peu la paix, on essaye de voir ce qu'on peut faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'humanité a deux ennemis principaux, tous les êtres humains. D'un côté, ce sont tous ces fanatismes ethniques, nationaux, religieux. Et le second, c'est ce pouvoir incontrôlé de la finance internationale qui subjugue tous les États et qui contrôle l'Europe et que contrôle les États-Unis, etc. et le reste du monde. Voilà les deux ennemis.
Et contre justement ces deux pouvoirs, que pourrait-on faire, Edgar Morin ? Dans votre dernier livre, vous donnez des pistes. D'après vous, comment peut-on s'impliquer si l'on considère avec vous que ces pouvoirs-là mériteraient d'être au minimum contrebalancés?
Eh oui, mais vous savez, on est degré zéro de la possibilité d'agir. Il faut repartir à zéro. D'abord, on résiste en esprit. Il y a une première résistance qui dit qu'on n'accepte pas, on ne subit pas, on ne dérive pas, on ne devient pas soi-même raciste, on ne devient pas soi-même fermé. Alors, la deuxième chose, c'est que moi, je considère que en France, mais aussi dans d'autres pays, il y a des forces vives, des forces de solidarité qui résistent à la toute-puissance de l'argent, du profit, de l'anonymat, et qui résistent aussi à la haine, au mépris, etc. Ce sont des gens qui créent des petites communautés, ce sont des communautés écologistes. Vous avez aujourd'hui un mouvement qui s'appelle le mouvement convivialiste, vous avez l'économie sociale et solidaire, vous avez un grouillement d'initiatives pour une autre civilisation, un monde meilleur. Elles se développent et elles peuvent avoir une force qui va finir par influencer la politique. À mon avis, c'est la voie à suivre. Il y a une voie de l'espérance, sans arrêt. Moi, quand je vais en province, je vois des exemples d'une vitalité et d'une créativité.
Puisque vous parlez de l'époque où vous avez vu la modernité arriver de la province, je pense notamment à votre livre « Commune de Plozévez » quand vous étiez allé avec une équipe de sociologues dans l'après-guerre pour voir comment la modernité s'implantait en France. C'était donc aujourd'hui, il y a pratiquement 60 ans. Cette époque-là, vous avez vu en quelque sorte la société de consommation, mais aussi l'émancipation voilà. des individus, des femmes, dans oui. ce coin-là de France. Comment c'était ? Racontez-nous, Edgar Morin.
Ben écoutez, d'abord, c'était fabuleux, parce que dans cette commune du sud Finistère de Plozévez, où il y avait une population merveilleuse, vous aviez des vieilles femmes, des vieilles paysannes qui parlaient même pas encore le français, mais qui avait un beau visage, qui avait un sens de la responsabilité, qui s'occupait de leur femme. Et un pays, effectivement, où il y avait un mouvement. Par exemple, ce n'était pas seulement le changement économique, mais c'était les femmes qui apportaient la modernité. Elles ne voulaient plus les cabinets dans la cour. Elles voulaient avoir une salle de bain. Elles voulaient avoir le frigidaire. Elles ne voulaient pas traire les vaches le dimanche, etc. Et les jeunes aussi, ils voulaient une autre vie. Ils voulaient une autre activité de loisir et tout ça, c'était un bouillon de culture qui après s'est manifesté dans les années suivantes. Donc, si vous voulez, j'ai vu cette modernité qui surgir. Mais cette modernité qui s'accompagnait quand même de quelques inconvénients, parce qu'il y avait beaucoup de petits exploitants qui devaient disparaître parce que leur exploitation n'était plus rentable.
Il y avait des gens très pauvres à l'époque à Plozévez dans cette commune
oui,
de Bretagne
oui. Il y avait des gens pauvres, mais il y avait aussi des gens qui avaient une multiplicité d'activités. Ils avaient leur petit champ, ils avaient un petit bistrot, ils faisaient un peu le taxi. Enfin bref, vous savez, ça se débrouillait, mais enfin, il y avait quand même une pauvreté. Mais c'était une commune où, par la scolarité, il y avait une ascension sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette époque, c'est une époque d'euphorie de la modernité. C'était, on voyait tous les avantages, l'émancipation des femmes, des jeunes, tout ça. Mais c'est maintenant, et d'ailleurs, vous savez, on a réédité mon livre et mon collaborateur Payard a fait une postface racontant Plozévez de 65 à 2015. Donc, si vous voulez, les nouvelles transformations. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est entré. Et dans le fond, ça a commencé avec les 68 et la suite, dans la crise de la modernité. Qu'est-ce que ça veut dire, la crise de la modernité ? Ça veut dire que les avantages du bien-être matériel, on a vu que ça n'apportait pas le bonheur. On a vu qu'on pouvait être très riche, qu'on pouvait avoir 4 télévisions, etc., et ne pas être heureux. Et moi, c'est ce que j'ai constaté à l'époque en Californie, parce que je voyais les enfants des familles très riches qui avaient 4 télévisions et 3 bagnoles, etc. Ils quittaient cette richesse pour vivre en communauté, dans la sobriété, au moins pour avoir l'amitié et la fraternité. Donc, si vous voulez, je commençais à comprendre que la modernité est en crise. La modernité a apporté le développement de l'autonomie individuelle, ce qui était quand même un progrès. Mais l'envers est apparu. Et on a vu, c'est la dégradation des solidarités traditionnelles. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau à faire. Notre civilisation est en crise.
Mais puisque vous avez parlé du journal de Californie, cette période où vous étiez en Californie en 69-70, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. D'ailleurs, à l'époque, vous fumiez beaucoup d'herbe. Dans ce livre, vous le racontez, Edgar Morin. Vous avez vu naître aussi une autre forme de civilisation. Peut-être le terme est-il un peu trop fort, mais en tout cas, en Californie, quand vous êtes arrivé, vous avez vu Berkeley, vous avez vu la contre-culture, vous avez vu la montée des cultures jeunes.
Oui.
Et tout de même, c'était quelque chose de nouveau, tout cela. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui a apporté du désarroi aux individus.
C'est vrai que je voyais un monde plein de vitalité, plein de jeunesse. Toutes ces jeunesses, quels étaient les mots d'ordre ? Peace, love, amour, paix, tout ça. Et il y avait quelque chose qui était très émouvant et qui m'a entraîné tout à fait. J'ai vécu dans cette culture-là. On dansait beaucoup. On allait à des concerts rock en plein air qui nous exaltaient. On fumait de la petite herbe normalement, amicalement. Mais c'est des moments d'épanouissement, mais qui n'ont pas duré longtemps. Ce que ça a apporté pour moi cette époque aussi, c'est comme j'étais dans un institut de recherche, j'ai découvert des penseurs, des travaux qui m'ont beaucoup aidé à modifier ma façon de parler, à l'enrichir et à élaborer ce que j'appelle maintenant la pensée complexe, c'est-à-dire la capacité de traiter la complexité du monde. Donc c'est une expérience capitale pour moi, mais qui en même temps me traduit cette chose, c'est que la modernité ne suffit pas, il faut apporter une âme nouvelle en tant que civilisation. Pourquoi ? Parce que une des dégradations de la modernité, c'est que la domination de la finance s'est faite énorme, ce qui n'existait pas. Il y a quelque chose de fou dans ce nouvel univers, et je pense que là aussi, on nous a lancé dans une consommation sans règles, sans freins, sans normes, et finalement vicieuse pour notre bien-être, notre santé. Aujourd'hui, il y a tout ce mouvement dont je vous parle qui réagit contre l'anonymat pour un monde vraiment où on est personnalisé, où on existe, où on s'épanouit dans une communauté, contre le calcul qui régit tout, la façon dont les économistes croient connaître la société, c'est une façon mutilée et insuffisante. Alors le calcul, vous avez l'intérêt, vous avez l'anonymat, et nous, et dans le fond, ces situations, elles veulent quelque chose d'autre, la convivialité, la solidarité, la fraternité. C'est pour ça que je suis tout à fait pour ces mouvements, pour une autre civilisation du mieux vivre.
Et finalement, cette civilisation, est-ce qu'elle n'est pas autant née en Californie que celle qu'on pourrait imaginer ? La révolution, aujourd'hui en tout cas, on ne la voit pas venir. En revanche, il y a eu une révolution en Californie, et il y a eu la découverte de l'inconscient, il y a eu la découverte de la cybernétique, puisque la pensée complexe, vous l'avez découvert au travers de Norbert Wiener, des penseurs de la cybernétique. Ce sont eux qui ont donné naissance à l'informatique avec les conséquences que l'on sait. Est-ce que finalement, cette révolution, ce n'était pas ça, Edgar Morin ?
Moi, je me suis nourri de ces penseurs qui étaient souvent des mathématiciens ou parfois des ingénieurs, qui restent très peu connus. Bien, certains sont connus comme Norbert Wiener, mais vous avez von Neumann, vous avez von Förster, vous avez HB. Et moi, je pense que toutes ces idées très fécondes, en tout cas j'ai incorporées, elles restent encore neuves dans le monde, et c'est ces idées qui peuvent féconder la connaissance et la vie.
Et aujourd'hui, les idées de complexité, que nous permettent-elles de comprendre, Edgar Morin ?
Vous savez, elles nous permettent de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre le monde. L'ennemi de la complexité, c'est une pensée réductrice. Vous réduisez l'autre à un de ses aspects, souvent le pire. Ou bien vous voyez le processus mondial uniquement sous l'aspect démographique ou uniquement sous l'aspect économique. La complexité, c'est de dire le processus mondial, il est économique, il est démographique, il est psychologique, il est religieux, il est social, tout est mêlé. Et c'est de comprendre ce méli-mélo qui est très difficile et pour lequel j'ai essayé d'élaborer une méthode qui elle-même ne peut pas être apprise en 2 minutes. Moi, j'ai écrit pendant 30 années une série de livres qui s'appelle « La méthode ». Pour élaborer cette méthode, il faut un certain temps, mais je crois qu'elle est vitale. Parce que aujourd'hui, la connaissance nous aveugle. Vous avez la connaissance des experts qui connaissent chacun un petit domaine limité, mais qui ne voient pas la relation entre leur domaine et les autres. Donc, ils s'aveuglent, et ils aveuglent les politiques à qui ils envoient leur rapport. Alors que moi, je demande une connaissance non mutilée, pas extralucide, on n'aura jamais l'extralucidité, mais qui essaye de naviguer dans cette complexité et qui sait qu'il y aura toujours de l'incertitude et qu'il faut toujours lutter dans l'incertitude. La connaissance est une aventure dans un océan d'incertitude avec des archipels de certitudes où l'on peut se ravitailler. Et donc, c'est pour ça, et je pense qu'une connaissance peut être positive sans être la connaissance absolue.
Vous avez été l'un des premiers, Edgar Morin, à vous soucier d'écologie. 2015 a été malgré tout une année où la préoccupation écologique a été partagée, disons, par le plus grand nombre. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ?
En l'année 2015, on a surtout partagé un aspect qui est très important, qui est l'aspect climatique. Or, l'aspect climatique n'est qu'un aspect d'un problème plus global. Je pense qu'il n'y a pas seulement le climat, Il y a la biodiversité, il y a l'agriculture industrialisée et l'élevage, la dégradation de la terre, il y a les pollutions urbaines, un ensemble de problèmes qui dégradent la vie naturelle et qui dégradent nos propres vies. Et c'est cet ensemble qu'on perd de vue. Quand on l'envoie un, on en élimine les autres. C'est pour ça que c'est très bien d'avoir fait une réunion sur le climat. C'est très bien, il y a eu un premier pas. Je pense qu'on a gagné. Mais il ne faut pas s'enfermer dans le climat. Le climat est un aspect d'un problème global. Et comme l'a dit très bien le pape François, ça nous oblige à changer notre mode de vie. Là, c'est une révolution intérieure qu'on demande. Aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas seulement la transformation sociale, c'est la transformation de chacun en prenant conscience de ses vrais besoins, de ses grands besoins. Vous savez, quand on réfléchit beaucoup, on se dit, mais après tout, mon besoin le plus formidable, c'est l'amour, c'est l'amitié. Bien entendu, je serais content d'avoir un peu de fric, mais dans le fond, les besoins fondamentaux, c'est ça. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier.
Vous avez tweeté récemment, puisque vous tweetez, Edgar Morin, « La crise du politique sera surmontée par une conjonction de l'infra et du suprapolitique ». Expliquez-moi.
Je pense que dans la société, il y a des mouvements qui se font, qui sont un aspect économique les uns, les autres un aspect écologique, les autres un aspect moral. Et tous ces mouvements qui se créent, qui se développent, en dehors des partis politiques et en dehors même de la réflexion politique. Et je pense que c'est bon, parce qu'actuellement, le monde des partis politiques est un monde où, vide de toute pensée. C'est un monde sclérosé. Mais il y a aussi, aujourd'hui, il faut élaborer une pensée qui comprenne le moins mal possible le processus mondial que nous vivons, qui comprennent que nous allons vers des catastrophes si nous continuons comme ça, et qui comprennent qu'il faut essayer de trouver une voie nouvelle. Alors, cette pensée-là est nécessaire. Et le jour où cette pensée se développe et se répand, et le jour où tous ces mouvements spontanés qui existent se réunissent, ça sera comme si, à ce moment donné, il y aurait des rivières qui se lisent pour faire un grand fleuve, et à ce moment-là, la politique sera régénérée. Les gens qui font de la politique seront obligés d'écouter ce qui se dit. Plus il y aura ces mouvements seront puissants, plus la politique sera influencée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas chercher le salut dans les partis politiques, il faut chercher le salut par en dessous, et après les politiques peut-être suivront.
J'aimerais terminer par la jeunesse, parce que vous êtes le doyen de la réserve citoyenne. Vous êtes allé à la rencontre des jeunes dans les écoles. Comment vous trouvez la jeunesse de France ?
Ben, vous savez, après les épreuves du mois dernier à Paris, où c'est toute une jeunesse qui a été fauchée par ces attentats horribles, et il y a une façon formidable de réagir. Parce qu'ils ont réagi, on veut nous attaquer dans notre façon de vivre, on veut nous attaquer dans notre convivialité, on veut nous faire peur dans les terrasses des cafés. Eh bien, nous, c'est ça la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans les épreuves que vraiment on est devenu vraiment jeune. Sinon, on serait devenu des étudiants qui continueraient à poursuivre leurs études, des petites bêtes à concours. Et aujourd'hui, je pense que sentir que le monde est menacé, sentir qu'on est dans un monde de risque, c'est quelque chose qui va stimuler la jeunesse. Alors donc, j'ai confiance, j'ai espoir. Je pense qu'il y a des forces vives, parce que la fraternité, la communauté, c'est des valeurs de la jeunesse. Dans toutes les révolutions qui ont lieu au XIXe siècle, en 1830, 48, c'était les jeunes. Et puis nous, dans la résistance, hein, on avait entre 18 et 24 ans. Dans le fond, la jeunesse, c'est des forces formidables. Et ces forces, il faut que l'adversité peut les réveiller. Et voilà mon espoir.
En ce jour de Noël, auriez-vous un dernier mot à dire aux jeunes et au moins jeune, peut-être sur votre dernier livre « Impliquons-nous », puisque comme vous venez d'ailleurs de le dire, Edgar Morin, l'implication et l'engagement, c'est un peu votre manière à vous d'être heureux et de sentir que la vie mérite d'être vécue.
Non, écoutez, tout d'abord, moi je dirais qu'il faut résister à tout ce qui tente à vous décourager. Tout ce qui vous tente à vous angoisser, tout ce qui vous tente à vous refermer sur vous-même. Il faut résister à la morosité. Bon, c'est vrai que l'avenir est incertain. C'est vrai que c'est la précarité, c'est vrai que c'est le risque. Mais vous savez, on fait partie d'une espèce qui, depuis la préhistoire, a connu les risques les plus grands. La vie humaine est une vie de risque. Aujourd'hui, nous avons un nouveau type de risque, une autre civilisation de risque, une nouvelle barbarie. Mais c'est la vie. Nous sommes confrontés à la vie. Et si nous affrontons ça, nous pouvons avoir en plus, en supplément, l'épanouissement de nous-mêmes et des moments de bonheur.
Joyeux Noël, Edgar Morin.
Et joyeux Noël à vous.